Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui le vendredi le 6 octobre 2012 et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc ce matin, nous allons revenir sur un sujet qui est devenu presque tabou, lui aussi, surtout dans la sphère politique québécoise. Personne ne veut entendre et encore moins d'en parler. Il y a quelques jours de là, les grands médias se sont prononcés sur le bilan du rapport 2011-2012 de la protection de la jeunesse. Les grands médias se sont attardés en première page d'ailleurs sur le nombre record d'enfants battus et bien sûr le signalement à la DPJ. Donc, et vous avez sûrement remarqué que c'est le rapport en question qui a fait réagir les grands médias et ce n'est pas le contraire. Et pourtant, il y a d'autres constats de groupes et de citoyens qui apportent d'autres vérités, qui contredisent et blâment sévèrement les comportements des intervenants, les responsables de cette institution gouvernementale, la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ. Mais malheureusement, ces cris, ces plaintes, ces rapports ne trouvent pas le même écho chez nos journalistes respectivement. Vous allez peut-être s'interroger sur cette complicité gouvernement-média et l'institution en question. Alors la réponse est que les médias, par des directives politiques sous-entendues, ne vont jamais dévoiler la tragédie de ces milliers d'enfants qui sont sous la tutelle de la DPJ. Une tragédie telle qu'elle est vécue derrière les murs de ces institutions gouvernementales. Bien sûr, le rapport vient masquer, détourner le regard de la population, alors que la réalité dicte d'autres données rarement dévoilées. Des milliers d'enfants québécois sont pris dans l'engrenage de cette machine de l'État qui ne cesse de multiplier ses échecs et commettre l'irréparable. C'est aussi pour éloigner cette réalité trop amère à la vision de la population, se rendre compte du degré de la souffrance de ces milliers d'enfants et le sort qui lui attend au bout du tunnel. Assurez-vous que la population va cesser définitivement de signaler au DPJ les cas observés. Voilà pourquoi les médias ne sont pas autorisés de nous donner les vrais comptes. S'il y a un silence de pierre, parce qu'justement, il s'agit aussi de ces enfants maltraités, violés, plutôt leur enfance et leur avenir pendant que nous, la population, nous sommes bernés par des faux rapports. Alors, on tente avec tous les moyens possibles et impossibles de cacher justement cette réalité à la population québécoise. La réalité de ces enfants qui comptent par milliers, ces enfants qui, soi-disant, étaient pris en charge par l'État, en fait, on fait que déplacer et amplifier le mal et la tragédie de ces enfants une fois enlevés de leur milieu. Le bilan maintenant de la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, souligne cette année le nombre record de signalements. On parle, chères auditrices, chers auditeurs, de 77 244 signalements ont été faits à la DPJ et de ce nombre, 32 661 ont été retenus. Ça veut dire que c'est la DPJ qui s'est chargée de ces enfants-là. Le reste qui n'a pas été retenu parce que les parents avaient pris les moyens pour protéger justement leur enfant ou accepter d'entreprendre une démarche d'aide. Donc il faut noter aussi que le nombre de signalements n'a jamais cessé d'augmenter depuis les dernières années. Donc maintenant, les signalements généralement se font par téléphone où l'agent qui reçoit l'appel dispose de trois codes, de 1 à 3, et c'est à lui qui revient de fixer la priorité par ces codes. S'il marque par exemple 1, ça veut dire que c'est une intervention est immédiate. Les chances pour qu'un enfant soit enlevé de son milieu sont très élevées, et cela même avant l'ouverture d'une vraie enquête. Alors qu'en réalité, beaucoup de ces cas nécessitent plutôt l'intervention des secteurs de la santé ou même des organismes communautaires qui peuvent remédier à la situation d'une manière plus acceptable pour les enfants et les parents, et encore mieux peut-être dire la famille. Il reste que l'intervention de la DPJ risque d'aggraver les situations et conduire la famille à un point de non-retour. La direction maintenant de la protection de la jeunesse existe justement depuis 1979. Elle agit en principe auprès des familles dans lesquelles le développement et la sécurité des enfants sont considérés comme un compromis. Cette institution doit s'assurer de la socialisation réussie des enfants et rappelle les interdits fondamentaux de la société. Elle décide aussi qu'est-ce qui est acceptable ou non en matière d'éducation des enfants. Et finalement, elle a la tâche d'assurer le respect des droits des enfants enchâssés dans la Charte des droits et libertés de la personne. Mais les témoins et les gens qui vivent ou qui ont vécu sous la tutelle de cette institution rapportent des témoignages troublants, comme les abus de pouvoir de cette institution, les dérapages démesurés, l'arbitraire, la manipulation et d'autres encore plus graves. Des pratiques courantes dans l'ensemble des réseaux de la protection de la jeunesse et que malgré les dénonciations et les avis mis par plusieurs groupes et personnalités, la situation demeure inchangée et on remarque un recul et une détérioration en continuité. Maintenant, les témoins et les victimes de la DPJ tous arrivent au même constat, que les abus de cette institution dépassent largement le cadre de cas isolés pour être un cas généralisé. Cette voix réclame aujourd'hui à haute voix justement l'ouverture d'une enquête publique afin de placer les responsables dans le box des accusés et peut-être améliorer le sort de ces pauvres enfants. Certains porte-paroles de cette voix qui sont d'ailleurs ce matin nos invités portent un souci particulier à cette injustice qui fait des ravages dans notre société sans que personne ne se rende compte réellement de l'ampleur de la situation, sinon les familles qui étaient ou qui sont touchées par l'abus du pouvoir de cette institution. Ta question aujourd'hui est comment venir en aide à ces milliers d'enfants pris dans l'engrenage de l'appareil de l'État par la direction de la protection de la jeunesse et pourquoi les gouvernements successifs n'ont pas voulu agir dans ce dossier. Est-ce que le nouveau gouvernement actuel acceptera le déclenchement d'une enquête publique pour mettre toute la lumière sur cette violation des droits de ces enfants au Québec? Pour répondre à ces questions, nous avons avec nous dans le studio M. Jean Stoll, porte-parole du groupe des droits de l'enfance et de la famille. Un homme qui a été allé encore plus loin en accusant le gouvernement canadien et québécois de crimes contre l'humanité dans ce dossier. Nous avons également Mme Chantal Minot, psycho-éducatrice qui a côtoyé le milieu de près et que je retiens de cette spécialiste dans le domaine. Une phrase alors que je l'ai invitée à cette émission, elle me disait « Oui, je viens et qu'est-ce que je ne peux pas faire pour les enfants ?» Nous avons aussi une mère, une femme, une maman pleine d'énergie et d'intelligence pour qui la cause de ces enfants de la TPJ devient une priorité. Nous sommes également honorés par la présence d'une grande mère qui a préféré garder l'anonymat. On va l'appeler Julie si elle l'accepte bien sûr. Une femme qui réveille chez les grands-parents québécois cette nécessité de ce droit de protéger leurs petits-enfants. Et nous avons aussi parmi nous Paula Maille, une mère victime de la DPJ. Je ne sais pas si on aura assez de temps pour qu'elle nous parle de son cas. Finalement, j'ai aussi M. Barnabé, Henri Barnabé de l'équipe de MAGE. Il s'est occupé dernièrement d'un dossier chaud où une mère venait de perdre la garde de sa fille âgée de 13 ans. Et vous allez entendre le résultat et le constat de l'intervention de la DPJ. Mon collègue Roland Cazès risque d'être un spectateur en face de ce débat ce matin. Alors, mes chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite à rester à l'écoute. Après notre thème musical, nous interrogeons cette institution gouvernementale, la direction de la destruction de la jeunesse, d'après des spécialistes et des témoins. Restez à l'écoute.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver part, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison.
Voilà donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et nous sommes sur le plateau, aujourd'hui le sujet ça sera la DPJ, le rapport de la DPJ 2011-2012. Alors directement peut-être je vais commencer par Madame Minot, vous venez de me dire la dernière phrase que j'avais prononcée comme quoi la destruction...
La direction de la jeunesse.
D'accord, mais là, je sais que vous êtes, c'est bien que vous êtes là aujourd'hui parce que vous n'allez pas mélanger toutes les tomates, elles ne sont pas toutes pourries. Et il y a des gens qui sont très bien dans ce milieu-là. C'est ce que vous allez dire,
c'est oui, ça? Ben c'est ça. Moi, j'ai commencé mes stages là. Oui. Je ne suis pas restée parce qu'on ne m'a pas acceptée. Il y a ces raisons aussi. Oui. Mais j'ai rencontré des bonnes personnes et je sais qu'il y a des bonnes personnes qui sont là. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer d'être intègres? Est-ce qu'ils peuvent respecter leur fonction, ça c'est autre chose.
Quand vous dites les bonnes personnes, je sais qu'il y a de toute façon les rapports, il y a le gouvernement, il y a des sortes de médias aussi qui disent la même chose que vous, mais ce côté-là qui est malheureusement pourri dans la DPJ, si vous me permettez le mot, il n'est pas dénoncé tout le temps.
Non, il faudrait parce qu'une vie, c'est trop.
Je commence directement par M. Barnabé. Vous avez dernièrement suivi un cas particulier où une mère qui a toujours gardé sa fille jusqu'à l'âge de 14 ans, monoparentale, et d'un seul coup, elle a voulu s'aventurer pour aller voir, rester avec son père une année. Et malheureusement, les choses sont tournées un petit peu mal. Hein. Donc le père était ivrogne, si je ne me trompe pas, et sous, soi-disant, le poids de l'alcool, il a abusé de sa fille. Donc, on parle de vraiment agression sexuelle contre sa fille. C'est un petit peu malheureux ce que j'entends. C'est pas un cas, c'est un cas qui... Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'intervention de la DPJ. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça, M. Barnabé?
Oui, justement, c'est la raison pourquoi, par rapport à que quand on a passé à la cour, ma fille, elle l'a su juste un mois avant. Puis que là, il y a eu la permission du père, qu'on pourrait dire que le père a donné la permission que sa fille aille dans une nouvelle famille.
Ce que je comprends bien, M. Malavé, pour ne pas s'éloigner un petit peu du sujet, c'est qu'une fois la petite, elle a essayé de parler à son père, ça n'a pas marché, elle était allée à l'école, elle a dénoncé son père à l'école, l'intervention de la DPJ, ils sont rentrés dans le dossier, et ce qui est important, c'est que la DPJ n'ont pas fait des démarches pour retourner la fille à sa mère, mais au contraire, ils l'ont gardée, et puis ils ont même autorisé que le père, il peut continuer à voir sa fille.
Oui.
Et quand cette mère-là était allée voir les DPJ, faire des plaintes DPJ, qu'est-ce qu'elle a entendu de la DPJ?
Mais la DPJ, elle lui a dit, si vous n'êtes pas content, madame, du 3 mois, parce que la mère, elle n'avait pas signé pour le 3 mois, elle avait signé pour le 3 mois, mais elle n'avait pas signé pour un an dans le DPJ.
Ah, mais dans une situation comme ça, madame, monsieur Barnabé, si vous me permettez, là, on parle d'une fille qui était agressée par son père.
D'accord.
Normalement, elle devra revenir chez sa mère. Qu'est-ce que la DPJ, ils ont répondu à la mère quand elle a dit, je veux faire des plaintes?
La mère, quand elle a porté plainte, elle a dit, pourquoi que tu laisses ta fille dans le secteur de l'agresseur?
Oui. Parfait.
Et puis elle comprenait pas ça qu'elle pouvait, après l'école, les classes terminées, la retirer puis l'envoyer à une autre place.
Oui.
Puis la DPJ, elle a dit non. Elle dit, la fille, elle a des amis là, ça fait juste 8 mois qu'elle était là.
Ça, on a compris.
Okay.
Maintenant, je veux savoir, c'était quoi la réponse de la DPJ?
Okay. Là, quand elle a dit, si vous n'êtes pas content, madame, vous avez juste à faire une plainte.
Oui.
Puis elle dit, faites-la la plainte. Puis elle a dit, le système est plus fort, excusez-moi, que les tribunaux.
Le système de la DPJ est plus fort que le tribunal. Oui. Merci, M. Bonhomme. Je reviens directement avec Mme Chantal, que vous êtes spécialiste un petit peu dans le domaine, mieux que, vous êtes mieux placée que tout le monde.
Spécialiste, non, mais je dirais que j'ai découvert cette année.
Mais vous avez quand même, c'est ça, vous avez un petit peu les yeux, comme on dit, dans ce dossier-là. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce que vous êtes venu d'entendre aujourd'hui?
Mais je peux confirmer que j'ai assisté cette année pour dire que c'est vrai, malheureusement.
C'est vrai.
Il y a eu une réponse l'année passée sur la pétition pour qu'il y ait une enquête. Je peux vous dire que chaque élément, oui, la loi est là, mais c'est pas appliqué. Le droit des enfants doit être entendu. Moi, j'ai vu qu'ils sont pas entendus, que les parents, oui, ils peuvent contester, mais c'est prolongé. Ils utilisent beaucoup de procédures pour abuser et moi, ils ont dû me payer au privé pour que je les protège contre la DPJ et contre une compromission d'une commission scolaire. Alors, c'est incroyable.
Mais vous avez comment entendu le témoignage de monsieur qui disait comme quoi la DPJ, on sent que la DPJ, elle a le pouvoir, elle a un pouvoir encore plus haut que les tribunaux. Est-ce que ça ne cause pas, ça ne devient pas inquiétant à ce point-là?
Écoutez, j'ai entendu, moi, un directeur adjoint clinique dire qu'il se prenait pour le juge. Je l'ai vu se lever, me menacer, me dire qu'il ferait une plainte à mon ordre. Écoutez, j'ai tout vu, monsieur, dans le dossier que j'ai eu cette année. Là. Oui. Je ne croyais pas que ça existait. Oui, ils se croient plus forts que la justice.
Monsieur Johnston,
contrairement à Mme Minot, je, qui prétend que la loi est là, qu'il va nous protéger, mais qu'elle n'est pas respectée, nous autres, nous prétendons qu'au contraire, la loi est biaisée à la base dès son adoption en 77.
La loi, il est en défaut déjà dès le départ?
Au départ.
Comment vous expliquez ça, M. Jean?
Un petit retour historique.
Plus rapidement.
Très, très, très brièvement. En 75, il y avait un grand scandale de maltraitance des enfants dans les institutions de l'État.
Oui.
Et M. Manuel Baccio a été mandaté pour enquêter. Il a déposé 11 rapports de son enquête et en 77, le gouvernement péquiste a adopté la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse.
Oui.
Et une des dispositions de cette loi place les directeurs de la protection de la jeunesse dans un conflit d'intérêts flagrant puisque c'est le directeur général des centres jeunesse avec son conseil d'administration qui nomme le directeur de la protection de la jeunesse et DPJ est mis sous l'autorité directe du directeur général des centres jeunesse qui sont des centres de détention pour enfants. OK?
C'est comme ça.
Alors, imaginez dans le monde des adultes, un directeur de prison, directeur général de prison, nomme son directeur de la police pour lui aller chercher la clientèle.
Oui.
Alors, suite au scandale de maltraitance des enfants, la réponse du gouvernement et de nos élus était on ne va pas protéger les enfants dans les centres, dans les institutions de l'État, mais on va protéger l'État contre le nouveau scandale. Parce que le DPJ a le mandat d'exclusivité d'enquêter sur les cas des enfants.
Et c'est ça qui explique en quoi la
population... il ne peut pas enquêter sur son supérieur.
Exactement,
Alors,
il y a quelque chose que je vais interrompre rapidement. Est-ce que ces gens-là sont formés pour différentes cultures? Parce que n'oubliez pas qu'au Canada ou au Québec en particulier, on est de différentes cultures aujourd'hui. Est-ce que ces gens ont une sensibilité à ça?
C'est un autre sujet, ça, Roland, mais c'est bien.
Madame, permettez... à la base, normalement, pour ce que j'ai pu constater, malheureusement, quand je vois des gens qui sont criminologues et qui traitent des enfants comme des criminels et des parents comme des criminels, quand ils devraient normalement avoir une formation sur le développement de l'enfant.
Ça, c'est selon votre observation, hein?
Oui, et qui devraient faire partie d'un ordre. Écoutez, déjà, ils n'ont pas ça, et pour moi, c'est inacceptable. Que ce soit des gens qui sont non formés sur le développement de l'enfant. Quand l'analyse clinique, c'est juste un titre, que mon voisin pourrait faire la même analyse clinique, ça m'inquiète beaucoup, monsieur.
Oui,
je pense que ça devrait déjà être des professionnels. Il y a une loi, d'ailleurs, qui vient d'être adoptée, que c'est des activités maintenant réservées. Je ne sais pas si ça va être appliqué, mais depuis le 20 septembre, c'est une activité réservée pour quand il y a des évaluations sur la loi de la protection de la jeunesse. Depuis le 20 septembre 2012,
année,
ça relève du travailleur social qui fait partie d'un ordre et du psychoéducateur. Alors, est-ce qu'ils vont le respecter?
Cette loi-là ou non?
Mais là, le problème aussi est À quel moment cette expertise va être demandée par DPJ, si ça va être seulement après avoir infligé un trauma aux parents et à l'enfant?
C'est tout à fait juste. Avant de relancer, peut-être passer pour le, madame la maman et la grand-mère, je voudrais bien présenter le cas de madame Paula Maille. Paula Maille, c'est ça, madame? Paula Maille, c'est une mère qui est venue avec sa fille de la Roumanie il y a 2 ans, arrivée aussi au Québec. Alors, elle était en Roumanie, elle vivait très bien, une bonne scolarité, une bonne condition. Et en arrivant ici, malheureusement, après 2 ans, je dis bien après 2 ans, la mère, elle vient de perdre sa fille. Et je vous laisserai entendre qu'est-ce qui est arrivé après. Madame, merci d'être venue répondre à notre invitation. Pouvez-vous nous dire...
Oui, au fait, je reprends le sujet de la culture parce que nous sommes venus au Québec et moi, je crois que le Québec est la plus tolérante place du monde en ce qui regarde les nouveaux arrivants. Et j'ai bien cru ça jusqu'à la rencontre de la DPJ. Parce que dans la DPJ, mon enfant, allons dire qu'elle s'appelle Eduarda, c'est un nom fictif. Eduarda, elle était croyante. Quand elle était prise dans le Saint-Jeunesse, elle faisait le signe du croix. Elle priait. Par la suite, les intervenantes l'ont apportée sans demander mon avis et sans m'annoncer. L'ont portée en urgence de l'hôpital psychiatrique Albert-Prévost en disant que ma fille était folle.
Parce qu'elle priait.
Parce qu'elle priait, parce qu'elle faisait le signe du croix.
Oui.
C'était le premier grand conflit qui s'est passé entre notre culture et qui a commencé à détruire les croyances de ma fille dans la société, dans sa croyance, dans tout.
Madame Paula Maille, votre fille, malheureusement, elle ne vit plus avec vous aujourd'hui.
Mais je ne peux pas donner des détails de ça parce que ma fille, j'espère qu'un jour elle reprendra la vie au soleil parce qu'elle est une personne qui écrivait des poèmes sur le soleil avant d'entrer dans la DPJ. Ce que je peux vous dire, c'est à propos et je suis admiratrice de tout le monde qui est ici pour dire la vérité et aussi spécialement, je souligne la présence de la psychoéducatrice qui a le courage de nous rejoindre. Et je veux évoquer un seul épisode qui m'a choquée, qui a choqué ma fille et tout le monde présent. C'était en 2011, février. Madame Thérèse Jacques, chef de l'accès à la DPJ de Laval, elle a dit devant 11 personnes inclusivement, mon enfant qui s'appelle fictivement Eduarda, elle a dit « La DPJ ne reçoit pas de l'ordre de juge. » Elle reçoit juste des recommandations et elle fait ce qu'elle croit bon avec elle. Ça, c'était à mon interpellation. Pourquoi l'ordre du juge Patrice Urtubise de donner une thérapie mère-fille n'est pas respecté? Vraiment, je peux vous dire que la décision du juge Patrice Urtubise n'a été jamais respectée, sans aucune conséquence pour la DPJ dans le cas de mon enfant, effectivement.
Voilà, mais grosso modo, juste pour savoir, pour dire à ceux qui nous écoutent ce matin, que votre fille, malheureusement, elle est complètement en part d'une destruction, quoi.
Mais je ne veux pas entrer dans le détail. Eduarda, pas ma fille, mais Eduarda, oui, elle est dans un état qui n'est pas digne de cette société. C'est dans un état pitueux, mais ce n'est pas juste Eduarda, il y a beaucoup
de... Il y a des centaines d'Eduarda ce matin-là.
On peut poser juste une petite question rapide. Est-ce que vous croyez que l'action de la DPJ a fait plus de mal à votre enfant que de bien?
Malheureusement, oui, et aussi à moi.
Alors, je veux savoir maintenant, je passe directement à la grand-maman, parce que la grand-mère qui est venue, vous êtes une grand-mère, oui. Et vous avez pris le souci aussi de ces enfants-là.
Moi, j'ai le souci de ces enfants-là, et je viens d'une culture où la famille, elle est très importante, où les problèmes se règlent dans la famille avant qui que ce soit.
Oui.
Et là, bien évidemment, on a été pris dans une situation inimaginable. Oui. Ce que je voudrais surtout signaler, c'est que le DPJ n'intervient pas parce que l'enfant est nécessairement compromis.
Oui.
Il y a une étude qui a été faite par une chercheuse, Marie Jacob, qui dit que dans 46% des cas, le DPJ intervient pour la garde, dans des conflits de garde.
Oui.
Donc, très souvent, les parents qui n'obtiennent pas la garde, qui est de la compétence de la Cour supérieure et non de la Cour du Québec, ils passent par le DPJ une intervenante pour aller changer la garde. Et à ce moment-là, dès qu'ils mettent les pieds dans cette famille, c'est la catastrophe. Donc l'enfant, il est pris dans le piège. L'enfant, on le fait passer pour un débile mental.
Ça, on le comprend. Oui. J'aimerais bien, si vous me permettez, qu'est-ce que vous êtes à nous dire, Mme Chantal Minot, ce que vous venez d'entendre? Assez grave, hein?
Oui, oui, mais moi, écoutez, pour avoir vu cette année, la situation que j'ai dû intervenir, juste pour aller bref, là, c'était une situation où il y avait eu compromission de la part d'école, mais ça s'appelle l'effet Pygmalion. Ça arrive, c'est des erreurs. Mais ça prenait quelqu'un à l'extérieur. Il y a eu la personne extérieure, c'était la DPJ. Mais au lieu d'écouter, d'entendre, d'évaluer les enfants, ils ont pris parti tout de suite pour l'école. Et parce que les parents adhéraient pas, ils ont mis une ordonnance et ils sont même allés quand je suis intervenue jusqu'à vouloir enlever ces enfants-là. Écoutez, c'est l'horreur, j'ai dû les protéger. Ils ont amené 7 fois en cour, monsieur, depuis le mois de février.
5 fois la cour?
7 fois, monsieur, 7 à 8 fois.
Oui, pour convaincre.
Et ça, c'est en dehors des suivis, des harcèlements, des lettres de huissier. J'ai passé l'été, j'ai dû retarder mes vacances pour supporter cette famille.
Vous avez épargné deux enfants, trois enfants?
C'est deux.
Mais il y a des milliers d'enfants.
Mais il y en a plein d'autres.
Les protège,
mais
oui.
On peut pas tous. C'est pour ça que je suis ici, pour que les gens, les intervenants, dénoncent. Il faut briser la loi du silence. Il faut briser le conformiste aveugle.
Très bien.
C'est les vies humaines qui sont en jeu.
Oui, madame,
moi, ce que je veux ajouter, c'est qu'il n'y a pas d'arbitrage de juge. Jamais. Le problème, il peut durer des années. Le juge, il entérine les décisions du DPJ à 99%. Maintenant, avec la nouvelle loi, du nouveau code de procédure, la nouvelle loi 9, le DPJ est censé, dans tous les cas, pour museler le parent. Parce que pour aller en appel, c'est impossible. Moi, je connais un cas, beaucoup de cas, où les parents sont partis en appel. Normalement, un appel, il doit être instruit et jugé en urgence, parce qu'un enfant n'attend pas.
Exactement.
Mais, bien évidemment, quand ils arrivent à la cour supérieure, le DPJ introduit des requêtes de quérulence. Et puis, l'appel n'est pas fait. Le parent, il est déclaré quérulent et c'est cuit pour l'enfant.
Monsieur Johnston, vous êtes comme un porte-parole de la famille, c'est pas juste de l'enfant, mais vous entendez la grand-mère qui nous dit ça. Vous êtes allé encore plus loin que ça. Vous accusez en définitive le gouvernement canadien et le gouvernement de Québec
de crimes contre l'humanité.
C'est gros ce que vous êtes en train de dire.
C'est gros, mais ce qui se passe est encore plus gros que ce que nous prétendons. Nous avons déjà. Nous sommes allés manifester à Ottawa devant la Cour suprême du Canada qui, au 10e anniversaire, le 13 octobre 2010, et le 13 octobre 2000, la Cour suprême du Canada a détruit les garanties juridiques de la Charte canadienne des droits et libertés aux enfants et à leurs parents textuellement. À leurs parents dans le contexte de protection de l'enfant. Alors, ça veut dire que le parent et l'enfant ou l'avocat de l'enfant ne peut pas opérer avec les droits fondamentaux.
Oui.
La DPJ a le pouvoir exclusif, c'est ce qui est stipulé dans la loi, d'évaluer la situation de l'enfant et au besoin, selon son jugement, alors il est et enquêteur et le juge, et ensuite, exécutant de ses propres jugements, il peut évaluer si l'enfant doit être privé de sa liberté. Alors, un des articles des actes reprochés par le statut de Rome, dont la commission multiple est qualifiée comme crime contre l'humanité, si c'est commis dans la poursuite ou l'application d'une politique, c'est justement la privation grave de liberté physique, dans notre cas c'est de l'enfant, en violation grave des dispositions fondamentales du droit international. Alors, cette violation systématique est confirmée par le jugement de la Cour suprême. Alors notre prétention sont bien fondées en droit et dans les faits.
Oui. Et votre combat, il est depuis combien d'années
Dans mon cas personnel, j'ai fait une plainte à la cour, au procureur de la Cour pénale internationale, à La Haye. Et malheureusement, la cour, le procureur m'a répondu que son Ça ne relève pas de sa juridiction, oui. Puisque sa juridiction commençait le 1er juillet 2002, tandis que le DPJ était dans ma famille en 2000-2001. Oui. OK, alors ça ne relève manifestement pas, mais ils ont archivé tout le dossier au complet et ils ont émis un avis que s'il y a de nouveaux faits ou preuves,
vous pouvez le représenter,
ils peuvent rouvrir le dossier. Une curiosité, j'ai pas vu mon garçon, le cadet, depuis 8 ans, en 2008.
Oui.
Et j'ai déposé la plainte avec la réponse du procureur au bureau du procureur général de Joliette. 3 semaines plus tard, je pouvais voir mon fils.
Oui.
Alors, voilà, mais sans aucun jugement, sans rien, oui, sans aucune excuse.
Étrange, comment...
Si vous permettez, je veux juste ajouter que si je suis ici aujourd'hui, c'est justement en rapport à la plainte, parce que les parents, dans le dossier que je suis intervenue,
oui,
adhèrent maintenant à la plainte qui a été faite à l'ONU.
Ah.
Oui, et c'est pour la raison pour laquelle j'ai rencontré M. Stoll.
Donc, il y avait un écho, là.
Oui, oui. C'est ça.
Madame, vous avez voulu
ajouter quelque chose? Moi, je voudrais ajouter quelque chose de très important. Je voudrais expliquer comment opère le DPJ quand ils arrivent pour contrer un jugement de la Cour supérieure de la garde d'un enfant.
Oui.
Ils commencent de toutes les manières. Là, c'est le DPJ, le juge, il est absent.
Oui.
La plaidoirie du DPJ, c'est elle qui compte et c'est elle qui est définitivement reproduite dans des jugements,
oui,
de 46-50 pages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par enlever l'autorité parentale aux parents qui est ciblé.
Ça, c'est vrai.
Fini.
C'est vrai.
Et à ce moment-là, ils ont développé des rhétoriques pour circoncire au code de procédure.
Mmh.
Donc, les objections, les témoins sont objurgués, donc ils ne peuvent pas témoigner. Ils rejettent. Même des requêtes d'urgence ne passent pas. Parce qu'on nous dit très souvent, moi j'ai entendu madame, la juge Ruffo dire, allez faire une requête d'urgence. Elle ne passe pas.
Oui.
Elle ne passe pas. Le DPJ, l'avocat du DPJ et l'avocat de l'enfant qui s'intéresse pas du tout à l'enfant, qui dans tous les cas n'a jamais vu l'enfant, ils sont incestueux. L'avocat du DPJ et de l'enfant. Donc, il rejette.
Même l'avocat de l'enfant.
Oui, jamais. L'avocat de l'enfant, il est payé pour le gouvernement, par le gouvernement, mais il ne voit jamais l'enfant.
Non.
Et il s'aligne dans 90% des cas avec le DPJ. Donc, on peut rester éternellement.
Mais les rapports qui sont présentés au juge, à part le DPJ.
Quand on te rejette une requête, le juge, il ne voit rien du tout.
Oui.
Tu vas aller encore au calendrier grec, attendre encore des années.
Oui.
C'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à épuiser le parent et entre-temps le petit enfant est en train de se détruire.
Subir.
Je m'excuse,
oui,
mais on a l'impression que vous dites que la DPJ est au-dessus de Dieu, quasiment.
Exactement,
oui,
c'est ça, c'est ça.
C'est grave.
Roland, si vous permettez, juste parce que la maman qui n'a pas parlé, qui n'a pas prononcé un mot jusqu'à présent, et elle est en train de pleurer. Chaque fois qu'elle entend parler de la DPJ, elle coule des larmes. J'aimerais bien savoir, madame, quel est votre avis aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que vous, chaque fois que vous entendez parler de la DPJ, vous pleurez comme ça et vous avez une souffrance visiblement, vous avez une souffrance accablante.
Ce que je veux dire, c'est que la DPJ, c'est quand elle rentre dans une famille.
Vous avez peur de la DPJ, madame?
C'est surtout les parents, ils ont peur de la DPJ.
Oui.
C'est la preuve, c'est qu'on peut même pas dire notre nom. Parce qu'on a peur de représailles.
C'est ça, vous refusez même de vous donner votre nom ici, aujourd'hui, alors qu'on se sent dans une...
Je peux dire que je vous ai rencontré, ça fait presque une année, et j'ai fait l'objet de représailles depuis.
Oh.
Et ça continue.
Parce que vous avez dénoncé la DPJ.
Ça fait 8 mois que j'ai pas vu mon fils.
Oui.
Oui, moi que j'ai pas vu mon fils. Ça fait 5 ans qu'ils sont rentrés dans le dossier et j'ai pas pu. J'ai fait un appel d'une décision de la Chambre de la jeunesse qui est restée coincée, bloquée pendant 3 ans.
Je sais qu'aujourd'hui, madame, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le combat de votre cas présentement. C'est le combat. Vous m'avez dit même à plusieurs reprises comme quoi c'est vraiment la collectivité, tous les enfants, le cas des enfants qui sont pris dans le grenage de la DPJ. C'est ça qui
vous êtes devenu. À chaque fois que je vois un parent raconter une histoire d'un enfant, Oui. Comme j'ai vu Madame May aujourd'hui, oui, sa fille quand même, elle a 18 ans et je pense qu'elle a plus, qu'elle est majeure, oui, et elle a été détruite par le système de la DPJ. Donc moi, je vois mon fils qui est maintenant, qui est très jeune, qui est encore jeune, oui, mais je vois qu'il n'y a pas d'avenir.
Vous n'avez pas d'avenir déjà. Il y a une destruction déjà.
Et moi-même, en tant que parent, ils font tout pour détruire les parents, oui, avec des procédures pour faire croire que le parent a des problèmes de santé mentale, même si le parent il est instruit, il est éduqué.
On a compris la DPJ, oui, quand ils vont mettre un constat, c'est ça qui va être suivi, Madame. Oui. La grand-mère peut-être.
Je voudrais ajouter quelque chose. Nous sommes quand même dans un pays développé, un pays entre guillemets des droits, des libertés, mais en tous les cas dans ce domaine-là, il n'existe pas. Une chose est certaine, c'est qu'au-delà même de la justice, le parent, il ne sait plus à qui s'adresser. Parce que même quand on s'adresse aux instances politiques, on n'a pas de réponse. Aucune réponse n'est faite. C'est vraiment la noirceur totale. Aucune possibilité de s'adresser à qui que ce soit, bien évidemment.
Mais M. Johnston, si vous permettez, ce qu'on entend maintenant, la dénonciation qu'on entend,
voilà, c'est le cri de désespoir.
Du désespoir, c'est absolument ça, absolument. C'est un désespoir.
D'impuissance totale. Alors, j'aimerais souligner ici, tantôt j'ai parlé de la loi sur la protection de la jeunesse qui octroie les pouvoirs exclusifs au DPJ pour décider de la situation et de l'issue de l'enfant. Au commun, dans cette loi, à l'intérieur de cette loi, la justice peut intervenir et juger quoi que ce soit, puisque c'est une disposition d'exception de la loi qui viole les droits fondamentaux, qui ne reconnaît pas les droits fondamentaux à l'enfant pour la protection contre l'arbitraire de l'État. Madame c'est Chantamino, ça ce qui est au fond de cette question.
Madame Chantamino, vous avez entendu, vous avez dit, vous nous reprochez comme quoi ce n'est pas le tout des DPJ qui sont contaminés par ce fardeau de, malheureusement, de manque à la fonction, si vous voulez. Est-ce que sous la lumière que vous venez d'entendre, est-ce que vous êtes toujours d'accord?
Oui, il y en a.
C'est la peur. Il y a toujours des bons.
Non, mais il y a des centres jeunesse, puis il y a la TPJ. Il faut faire la différence aussi. Oui. Et non, écoutez, je le sais qu'il y a il y a beaucoup de gens qui quittent aussi la DPJ. Je fais partie des personnes que j'ai terminé avec un A et j'ai été refusée parce que je voulais rester intègre.
Il faut garder l'esprit.
Pour terminer mon baccalauréat, je peux vous dire, j'ai dû me battre jusqu'à l'ombudsman pour rester authentique et vrai. Il était absolument pas question que j'adhère à cette loi-là, que je dénonce pas certains faits que je voyais dans les centres de jeunesse. Mais je voulais vous dire que cette année, moi, qu'est-ce qui est dénoncé ici? J'ai assisté à ça. Mais je peux vous dire que dernièrement, on a gagné contre la DPJ et la juge, elle a entendu. Elle a entendu pourquoi? Parce que vous avez tout à fait raison. Pour la première fois en 2 ans et demi, l'avocat s'est enfin décidé à aller rencontrer les jeunes filles chez elle et voir comment ça allait bien, comment que c'était bien. Ça ne s'était jamais fait avant. Et si les gens faisaient leur travail selon leur fonction, que ce soit les intervenants, écoutez, moi, j'en viens pas. Je vous dis que c'est vrai. Je vois des rapports assermentés avec des mensonges, monsieur. Les parents ont des audios qui prouvent le contraire. Y a-tu quelqu'un qui va faire quelque chose? Monsieur, ça là, c'est illégal. C'est des mensonges. Et puis là, quand ils voient que ça marche plus, ben là, c'est la mère qui a un problème de santé mentale. Puis si ça marche pas, puis qu'ils ont trouvé une professionnelle, exemple comme moi, psychoéducatrice, ils vont essayer de me trouver moi aussi des problèmes de santé mentale. Je vous jure que c'est vrai. C'est la dernière technique. Et si ça réussit pas, ben là, on obtient justice. Là, ils ont obtenu justice vendredi passé, mais je vous dis que c'est parce que moi, j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai pas été intimidée par les menaces de la DPJ. Je vous jure que j'ai vraiment été très intimidée. Et l'avocat des enfants a eu peur aussi, mais il s'est affirmé. Il a fait son travail. L'avocat des parents, excusez, il s'est affirmé, il était nouveau aussi dans le domaine, et il a fait son travail. Et l'avocat des enfants, enfin, c'est ça qu'il a fait entendre, parce que la juge, il utilise toutes les techniques. La DPJ, c'est eux autres qui sont entendus en priorité. Depuis le mois de février, qui empêche mon témoignage. Écoutez, même quand j'ai remis mon rapport à fin mars, l'avocate, comme par hasard, est tombée malade. Alors, ils ont prolongé indûment. Et la juge ne peut jamais entendre le point de vue d'un autre intervenant.
Mais madame, si vous me permettez, j'ai de la difficulté à comprendre. Est-ce que vous voulez envoyer un message d'espoir ou en même temps, vous êtes en train de dire, pour arriver à ce stade où vous êtes rendu, il faut vraiment presque un miracle?
Écoutez, moi, je crois sincèrement que je pense que le mérite qu'on a, moi, écoutez, peut-être que je dois affronter plusieurs difficultés, mais je peux vous garantir
de votre part,
que non, mais je dors bien, monsieur, puis quand je m'amuse bien
c'est
avec ma
bien.
Famille,
ouais,
et je dors la conscience tranquille. Ouais. Je plains sincèrement tous ceux qui ne s'affirment pas, qui assistent à ces destructions humaines là sans rien dire et qui quittent sans dénoncer. J'encourage les intervenants à dénoncer et je vous dis que la protection le protecteur des usagers devait primordialement il relève maintenant du protecteur du citoyen.
Fait,
On pouvait les professionnels dénoncer, mais maintenant on peut plus. Ils ont changé ça. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça que les intervenants ne peuvent plus dénoncer des abus.
Monsieur Johnston, je vais vous poser la question qui, moi ça me dérange. Okay. Pourquoi l'homme politique ne se prononce pas sur ce cas-là?
Parce que c'est trop gros, évidemment. C'est tellement gros qu'un petit député ne peut pas s'y immiscer parce qu'il y en avait, quand PQ était au pouvoir autour des années 2000, il y en avait deux, trois ministres qui se sont déjà prononcés là-dessus. On ne peut pas changer la loi parce qu'il y a 7-8 syndicats, etc. Alors, même les députés sont intimidés, sont
prononcent, oui.
Oui, mais aujourd'hui, les députés, surtout sous le règne de Charest, Jean Charest, c'était encore pire. Les députés ne donnent plus aucun avis public concernant les DPJ.
C'est devenu un
tabou total.
Mais avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas un espoir, une ouverture peut-être?
Oui, que c'est Mme Marois qui a triomphalement annoncé à la population l'arrivée de la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse en 1979. Alors, c'est un ex-travailleur social. Alors, comment vous voulez vous entendre de gouvernement Marois qu'il y ait des changements puisque c'est elle qui est à l'origine.
Moi, je voudrais évoquer un point très, très important.
Vas-y, madame.
J'ai écouté Madame Ruffo la dernière fois sur les ondes et elle a soulevé un cas qui est vrai. Elle dit, avec tout ce marasme, est-ce qu'un seul jour, on a entendu le DPJ déposer faire une enquête criminelle sur un parent, quel qu'il soit, famille d'accueil ou autre, quand l'enfant est dans des situations épouvantables. Moi, je peux en témoigner que le DPJ, Mme Ruffo l'a confirmé, il n'y a jamais eu de truc criminel, poursuite concernant... Je peux confirmer que c'est vrai, nous avons un cas d'un parent pour lequel il y a eu un rapport de police. Il devait passer en criminel et le DPJ a écarté l'affaire. Le dossier a été fermé.
Oui. Souvenons-nous aussi qu'il y a eu l'espèce de massacre de la famille là, pour les crimes d'honneur. La DPJ était complètement absente. Alors parfois elle est absente quand il faudrait qu'elle soit présente et puis quand il faut qu'elle nous oublie un peu, elle est toujours
et
là dans mon langue.
Alors il n'y a pas seulement la loi sur la protection de la jeunesse, mais aussi les directives du gouvernement. Par exemple, le plan d'acte interministériel du gouvernement du Québec, plan d'acte concernant les agressions sexuelles, place le DPJ au-dessus de la police et du procureur général qui doit les échanges d'informations doivent se faire dans le respect du pouvoir discrétionnaire de DPJ. Alors, ça n'a aucun bon sens. Alors, c'est toute la porte est ouverte complètement à la corruption.
Oui, mais on parle aussi pour l'abus sexuel dans le rapport qui était déposé cette année-là. Et on parle de 1822 cas abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel 1822. Imaginez-vous le nombre qui est aussi.
Et là, l'enfant va écoper jusqu'à ses 18 ans et le parent va écoper peut-être dans la collectivité. Aucun bon sens.
Une chose est certaine, l'an dernier, une députée du Parti québécois, elle avait demandé une enquête pour les drames familiaux. Mais il ne faut pas l'oublier, et M. Poirier l'a répété très souvent, pour dire que dans 99% de cas de drames familiaux, toujours en toile de fond, le DPJ. Il y a un grand problème.
Sur mon avis, vous avez ajouté quelque chose.
C'est une vraie bègue, quoi.
Oui. Moi, je vais juste vous donner
rapidement.
Je vais juste vous donner l'information. Moi, j'ai défendu un jeune qui se faisait faire du taxage. Oui. Je l'ai ramassé dans la rue.
Oui.
Je l'ai emmené chez la DPJ.
Oui, vous avez compté la DPJ.
Et puis, j'ai vu la DPJ. Et puis, ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai dit, je l'aide à l'enfant. L'enfant vient se rapporter parce qu'il s'avait poussé de la DPJ.
Oui, oui.
Ils m'ont dit, qui vous êtes-vous? J'ai dit, je suis un père de famille, puis je connaissais la mère puis l'enfant. Ils m'ont dit, après ça, ils ont pénalisé l'enfant, ils l'ont envoyé à l'Uberdo par rapport que l'enfant n'a pas voulu dire, parce que l'enfant, moi, je l'avais emmené chez nous,
oui.
Parce que je le perdais le soir, il était dans le mois de novembre.
Vous l'avez emmené chez vous?
Il
y avait votre mère, votre femme qui était là et
oui,
tout,
ma femme.
Et le garçon en question, il a dormi chez vous?
Il a dormi chez moi,
oui. Et
puis après
et
ça,
le lendemain, vous l'avez conduit?
Oui. Non, mais le lendemain, c'était à sa fête, il savait pousser parce qu'il voulait fêter avec sa mère, sa fête à lui. Moi, j'ai dit, OK, mais tu vas, une chose, après que tu auras fêté, tu te retournes là-bas. Il est parti de lui-même, puis j'étais avec.
C'est vous qui l'avez conduit au centre?
Je l'ai emmené parce que je voulais être sûr. Mais là, le plus pire de ça, j'ai peur. Parce que savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de faire dire à l'enfant que j'étais un pédophile.
Parce que vous l'avez conduit.
Oui. Parce que je l'ai conduit, puis il était venu coucher chez nous.
Quel âge avez-vous, M. Bonnabé?
Moi, j'ai 75 ans.
75 ans.
Puis je connaissais la mère,
oui.
Puis je connaissais l'enfant, puis c'est l'enfant qui est venu me voir.
Oui.
En plus de ça, c'est encore pire que ça. Ils ont vu la mère. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'était pas capable d'aller voir son fils pendant un an de temps.
Ouais.
L'enfant était à l'Uberdo.
Il était pénalisé. Hein?
Pénalisé, ouais. L'enfant, puis tout ça. Moi, plus que ça, j'étais voir la madame. J'ai dit, accusez-moi. Je veux que vous m'accusez.
Là, vous parlez de la dame de la DPJ.
Oui.
Vous dites, accusez-moi.
Elle n'a jamais voulu m'accuser.
Ouais.
Parce que j'aurais aimé ça.
Mais, écoutez, okay,
merci.
Mais l'enfant a été pénalisé.
Si vous me permettez.
Pas... Oui.
J'en suis pas revenue cette année, moi, parce que je défendais cette famille, ces enfants, parce que moi, c'est 6 personnes. C'est deux parents, une belle famille, très belle famille,
oui.
Très compétente, trois beaux enfants, monsieur, une grand-maman. Est en destruction totale. Et parce que je les ai aidés à se reprendre en main et les protéger, c'est drôle à dire, mais contre la DPJ, et c'était un peu particulier, on essayait de dire que je prenais le rôle parental. L'intervenant de la DPJ a même essayé de me discréditer devant la commission scolaire, dire que j'étais une incompétente, une charlatante, que je ne faisais pas partie de mon ordre, que je nuisais aux parents. Devant, là, les parents, s'il n'y avait pas tout ça sur audio, ne me permettraient pas de dire.
Vous ne demandez pas une enquête par hasard sur la DPJ?
Je recommande, parce que je
ne
pourrais jamais...
Excusez-moi, Roland. Monsieur Jean, je vais vous passer la maman, je vais passer la parole, mais juste entendre... Monsieur Jean, vous allez... Vas-y, je vous écoute.
Bien sûr, on demande, et c'est le but ultime du groupe Droits de l'enfant et de la famille, ouais. D'obtenir une commission d'enquête indépendante et compétente, publique.
Publique, oui, bien sûr, oui.
Pour enquêter sur la politique de la protection de la jeunesse.
Oui.
Je voulais revenir sur une chose. On a soulevé la question que les parents qui on prend, enlève l'enfant, sous prétexte des actes criminels, sont rarement poursuivis aux criminels. Mais il y a une autre question qui est encore plus importante et plus grave, c'est l'impunité des intervenants des DPJ. Une politique en soi qui est inconstitutionnelle, incompatible avec les principes de la démocratie dans un état de droit, est dénoncée par l'ONU. Divers instruments de l'ONU comme promotion et protection des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité, les documents sur l'impunité concernant directement l'impunité qui dénoncent cet état de fait.
Oui, oui.
Mais brièvement, pour illustrer le cas de Rebecca Lévesque, une fille décédée l'an passé, 17 ans, par négligence extrêmement grave, au moins par négligence, si ce n'est pas encore plus grave que ça. L'avocat de M. Martin Lévesque a virulemment dénoncé sur les ondes et dans les médias ce point, l'impunité de DPJ, que c'est incompatible, okay, etc. J'ai reçu l'appel de M. Martin Lévesque,
oui,
et il m'a dit qu'il va rencontrer le lendemain les représentants du gouvernement du Québec. Alors, depuis, j'ai pu entendre parler. Alors, le gouvernement du Québec a réglé hors cours le cas de M. Lévesque.
C'est la loi du silence.
Il y a deux aspects de ça. Le cas de dédommagement de la famille, c'est une chose, mais le cas de poursuite des responsables de cette négligence criminelle, et où aussi le code criminel reconnaît que l'organisation sera criminellement responsable si les supérieurs ne dénoncent pas les actes criminels des agents. Alors ça, c'est un aspect qui aurait dû être entamé par le procureur général, sauf
qu'il
ne peut pas le faire parce que le DPJ a tous les pouvoirs.
Le pouvoir puissant. Madame, je vous écoute.
Oui, moi, je voudrais surtout dénoncer un fait très important, c'est l'absence des médias.
C'est ça,
les
c'est
médias,
exactement,
ils sont là, ouais, pour faire la promotion du DPJ.
C'est exactement.
Moi, j'ai, la semaine dernière, Monsieur Marie Houdumont a reçu la juge Ruffaut. Elle est, ouais, passée le matin à 10h30.
Ouais.
Elle a dénoncé, elle a dit que le dossier est rendu tellement grave, ouais, que maintenant, c'est rendu aux Nations Unies. Et j'ai cherché pendant une semaine la vidéo concernant, ouais, ce passage, j'ai pas pu le trouver sur Internet.
Il est enlevé.
Par contre, le lendemain, samedi, ouais, toute la journée, on a passé en boucle un enfant qui cherchait une famille d'accueil. Un enfant de 8 ans à qui on cherche une maman. On, ouais, l'a enlevé de sa famille, ouais, pour lui trouver une famille d'accueil. Et ça, c'était la prise. Alors que je me suis renseignée sur ce cas, c'est un enfant qu'on a enlevé à sa famille, ouais, qu'il n'y avait pas de raison de l'enlever.
Ouais. Madame Chantal,
vous savez, il faut une chose. Ouais, hein, quand, ouais, les médias, parfois, quand c'est important, ils le passent à 2h du matin, à minuit, à 1h, quand c'était pour les étudiants. On a vu ça aussi. Les médias sont pourris des fois.
Et je voudrais ajouter aussi une chose.
Vas-y, oui.
Ça se passe autrement dans les autres provinces anglophones. On a vu des manifestations en Calgary, en Colombie-Britannique par rapport à la protection de la jeunesse.
Oui.
Aux États-Unis, c'est très dénoncé.
Vous êtes en train de dire que la population là-bas, ils sont plus réveillés, c'est ça?
Ils sont plus alertes.
Ils sont plus sensibilisés. Oui.
D'autant plus qu'ils sont proches des... Bon, parce qu'il y a aussi la langue. Parce qu'aux États-Unis, ce phénomène de la protection de la jeunesse est très dénoncé. Il y a même une sénatrice qui s'appelle Nancy Schiffer,
oui,
qui a payé de sa vie parce qu'elle a dénoncé le système de protection de la jeunesse aux États-Unis. Donc, les gens, il faut qu'ils prennent, conscience.
Parce que là aussi, ça diffère d'un État à l'autre.
Ouais. Oui, oui, mais quand même, les médias, ils parlent.
Excuse-moi, oui, madame,
c'est de la mafia, c'est de la paix.
Je reviens avant de vous, madame, je poserai à madame Chantal. Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec l'impunité. C'est ça qui est inacceptable. Moi, depuis que j'ai fait mes stages, je n'en reviens pas comment que. Et je vous dirais qu'ils commencent déjà à faire la sélection à l'université. Si on n'adhère pas à cette loi du silence-là, mais c'est pas compliqué, on passe pas notre stage. Ça commence là, je peux l'affirmer. J'ai dû me battre pour terminer mon... Et je veux vous dire une chose, c'est que j'ai failli tout abandonner au début.
Ouais.
Et parce que j'avais des jeunes qui m'avaient dit... Il y avait un jeune qui m'avait dit, Chantal, je te vois pas à Sainte-Geneviève. J'avais dit, pourquoi? Parce que toi, tu nous souris. Ça m'avait fait réfléchir. Je me suis dit, si je laisse tomber, si tous, parce que j'en connais des bonnes collègues qui ont laissé tomber, hein, oui, la psychotication à cause de ça, à cause des, oui, horreurs qu'ils ont vues. J'ai dit, si je laisse tomber, qu'est-ce qui va rester à ces enfants-là? J'ai dit, non, je vais rester. Et je vais me battre pour ces enfants-là, pour ces parents-là. Et c'est pour ça que je suis restée.
Mais merci, vraiment, madame. Vous avez un vrai espoir, finalement. C'est vous qui donnez, oui, un peu de lumière dans le tunnel.
C'est parce que je sais que les intervenants, ils veulent, mais je peux vous dire qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose d'instauré dès, oui, l'université, parce que pour passer un stage, si on dénonce, on passe pas, puis si on dénonce pas, ben on se trouve pris au piège.
Alors, vous voulez revenir à la base. Il faut,
oui,
d'abord commencer par la base. Madame la grand-maman...
Moi, je voulais revenir tout à l'heure...
Très rapidement, parce qu'on n'aura pas
médias,
beaucoup de temps.
Sur les médias, c'est sûr... le Québec, c'est exceptionnel.
Oui.
Je reviens, je reprends ce qu'a dit cette maman. Et effectivement, à Calgary, ils font des marches devant les palais de justice, ils dénoncent. En Colombie-Britannique, c'est pareil. Le Québec, c'est assez particulier.
Maintenant, pour la maille, peut-être un dernier mot pour vous. Est-ce que vous êtes venu ici s'installer au Québec parce que c'est la liberté, la justice et l'égalité, blablabla, et l'avenir pour votre enfant? Est-ce que vous regrettez d'être ici, d'avoir venu ici?
Je regrette amèrement que je suis ici, mais par contre, je n'en veux pas au Québec. Le Québec est un beau pays, sauf que la DPJ ne fait pas l'honneur au Québec. Pour vous donner un seul exemple, en 2009-2010, Eduarda et beaucoup d'autres filles étaient couchées dans des chambres à coucher, tout petites, sans fenêtre.
Oh.
Donc, À Laval, dans la Saint-Jeunesse, les filles sont couchées dans des chambres sans fenêtres. Ça, c'est une torture. Aucun enfant n'a pas, n'est pas censé à une telle horreur.
Oui, M. Jean-Saul.
Mais c'est étonné. Je vous remercie publiquement pour cette opportunité peu trop rare de pouvoir parler de ces choses dans les médias. Et j'aimerais, je voudrais aussi en profiter pour lancer un appel aux victimes via Mouvement Action Justice de pouvoir nous contacter, notre groupe, ou même Madame Minot éventuellement. Je lance appel aussi aux concitoyennes de nous soutenir, de se réveiller finalement, parce que c'est pas seulement honte pour le Québec, mais c'est affreux ce qui se passe ici. Et il faut dénoncer ça, il faut jeter à terre ce système criminel.
Ouais, donc vous avez cherché un peu de l'appui quelque part. Madame la grand-mère, est-ce que vous avez quelque chose à dire aujourd'hui aux auditeurs qui vous écoutent?
Moi, j'espère tous les jours, évidemment, que c'est un pays extraordinaire. Et si nous sommes là, c'est que parce qu'on avait des raisons. Mais malheureusement, le DPJ, je reviens à ce qu'a dit madame, ne fait pas honneur au Québec.
Oui. Mais peut-être que je reviens plus tard à Mme Amiou, votre dernier mot aujourd'hui. Vous avez dit qu'il y a un espoir, que ce n'est pas tout le monde qui travaille dans le DPJ, ils ne sont tous pas pareils, pas tous des robots, si vous voulez dire, mais il y a des gens qui sont vraiment...
Il y a des gens malsains, excusez-moi, vraiment malsains, qui sont à des postes de pouvoir, je vous dirais, malheureusement, Mme Payette, Lise Payette, écrivait l'autre jour qu'elle avait su surmonter ses peurs, et c'est comme ça qu'elle a avancé. Je dirais aux gens, arrêtez d'avoir peur, assumez vous, et je crois que même si les difficultés vont être là, vous allez dormir en paix et tranquille.
Est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait faire une pétition là, pour vraiment demander l'enquête publique?
J'aimerais bien pour que la maman dise son dernier mot. Merci
beaucoup. Ce que je demande en tant que parent, c'est qu'il y ait une enquête publique. Oui. Je lance un appel et je demande que tout le monde se mobilise, parce que personne n'est à l'abri de cette grosse machine.
Très bien dit. Monsieur Arnabé, dernier mot.
J'ai de l'espoir, cette femme-là.
Ah, moi, j'ai l'espoir à tout le monde, tous ceux qui sont
l'espoir.
Là. Ouais. Que le combat, c'est bien. Alors, M. Barnabé, à son âge, 75 ans, il commence à verser des larmes aussi. C'est un petit peu l'inquiète traumatisant. Roland, dernier mot.
Dire une chose. Ça fait peur de faire des enfants. Excusez-moi, si on a des systèmes comme ça, là, il vaut mieux pas faire d'enfants.
Je veux juste relativiser. C'est pas le système, monsieur. C'est des certaines personnes qui se sont bien placées les pieds. Il faut les dénoncer. Il faut que ça s'arrête.
Mais, Mme Imo, ils sont nombreux, ces gens-là.
Ils sont pas si nombreux que ça, monsieur, mais ils sont à des postes de pouvoir.
Oui. Alors voilà, chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission, sans avoir épuisé, bien sûr, toutes les allées de cet immense problème de société. N'oubliez pas que les enfants sont la plus grande richesse d'une société. Une société un peu sage devra leur accorder une attention particulière. Je remercie mes invités, monsieur Jean Stoll et madame Chantal Minot, c'est ça? Je remercie aussi la maman et la grand, et aussi Julie, la grand-maman, qui a accepté notre invitation. Merci aussi à M. Barnabé et à Mme Paula Maille qui a accepté notre invitation de venir témoigner ce matin-là. Je dis aussi merci à notre technicien de son, M. Louis-Joseph Alondi, et merci à Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À vous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.
Du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît. C'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocence à tant de larmes et de souffrances? La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, Je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on sait de par le monde faire la peine pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs, et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté. Jusqu'au bout de l'éternité, je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'école.
Non-stop sur les Antilles, une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles,
mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Le CAMO PI fait la promotion de la main-d'œuvre immigrante comme solution gagnante au développement du plan Nord.
Le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes immigrantes, le CAMO PI, est financé par la Commission des partenaires du marché du travail pour développer des stratégies visant à accroître l'intégration des personnes immigrantes en emploi. Pour obtenir plus d'informations sur nos travaux et recevoir notre bulletin d'information électronique, visitez le camo-pi.qc.ca.
Reggae, Kamba, Zouk, Lambada, Bossa Nova, Fado, Hip Hop, Hagamofi, Mala, Hango, Samba, Merengue, Bachata, Jazz, Chansonnette Française, Soukous, Honk Francophone, Funk, Blues, Techno, Drum and Bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.